Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un troisième entretien et surtout rencontre avec vous, Éric Desrusses, que je salue très vite. Bonjour.
Merci, bonjour.
Ravi de vous retrouver, alors auteur également de nombreux ouvrages qu'on ne présente plus. Je rappelle que vous êtes aussi poète, oui, philosophe et auteur de ce 16e livre.
Oui, c'est ça.
On ne les compte plus. Prêtez-voix, paru cette semaine aux éditions Saint-Léger. Dites-nous, alors c'est une confession peut-être que vous allez nous donner, où trouvez-vous cette énergie qui vous mobilise pour lire, creuser une œuvre et puis transmettre, pour entrer et faire le choix, se déplacer dans ce chemin aussi de vie intérieure.
Je crois que c'est d'abord l'œuvre au départ, l'œuvre elle-même qui m'a communiqué cette énergie, parce que si une œuvre, comme le dit Edith Stein, comme une mélodie, elle parle de l'exemple de la mélodie, elle dit « une mélodie, ce n'est pas juste une succession de sons, c'est une âme qui chante, ou qui pleure, ou qui rit. » Et de la même façon, un livre, ce n'est pas une suite de mots, de pages alignées les unes après les autres, c'est une vie, il y a une sève qui circule, il y a une pensée dans laquelle l'auteur a engagé son être, sa substance. Et quand j'ai lu ces textes, c'est cette vie au contact de laquelle la mienne s'est trouvée. Et donc cette énergie, cette première énergie, l'énergie c'est la vie c'est un dynamisme. Quand je parle d'énergie, de vie, je parle de caractère dynamique de la vie. Donc c'est ça que j'ai rencontré, qui m'a été donné, qui m'a été communiqué, que j'ai reçu. Et plus profondément, mais c'est conforme au texte d'Edith Stein, cette énergie je la trouve dans la relation avec la source de la vie, qui pour moi est Dieu, hein, Dieu qui est la vie, cette trinité qui nous habite depuis notre baptême, qui est présent en nous, que l'on peut rencontrer par la prière silencieuse, par l'oraison. Et comme disait le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, on ne met pas la main dans l'eau sans être mouillé, on ne touche pas le feu sans être brûlé, on ne se met pas en présence de Dieu sans en recevoir cette vie. Et pour moi, c'est certain, c'est la source, elle est là. Mais après cette vie, je vous avoue, et cette énergie, je la retrouve dans tout ce qui est le réceptacle de la vie, dans toutes les œuvres qui portent quelque chose de cette force de vie. Parce qu'il y a aussi des œuvres qui sont pleines d'une force de mort, de destruction. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Donc vous faites un choix complètement, de vos propres auteurs et interprètes. Il y a cette liberté, ce discernement.
Mais c'est comme, si vous voulez, une voix pour un chanteur, une voix, elle est apte à chanter plutôt un répertoire qu'un autre. On ne peut pas tout chanter. Moi, ce qui m'attire, c'est le sacré, c'est la beauté, c'est l'élévation, c'est la vie. C'est ça qui m'attire. Et le temps passant, j'ai moins de temps, parce que le temps m'est toujours chaque jour davantage compté.
Le temps nous est compté, voilà. Pour tous. Hein.
Et donc, si vous voulez, je n'ai plus de temps à perdre. Ce qui ne m'intéresse pas, je ne dis pas que ça n'ait en soi aucun intérêt, mais moi, je ne suis pas appelé à m'y intéresser et à libérer un espace pour cela. Alors, il y a des œuvres qui m'attirent davantage, des œuvres dont je me rends compte qu'elles sont porteuses de lumière, de vie, qu'elles vous anoblissent, qu'elles vous rappellent la destination ultime qui est la nôtre, et pas des œuvres qui vous tirent dans la désespérance, le caniveau et la nuit. Je suis persuadé que le dernier mot de l'histoire humaine n'est pas la douleur, n'est pas la destruction, n'est pas la nuit, que notre avenir est un avenir de lumière, même si ça passe par la douleur et par la mort. Mais ce n'est pas le dernier mot. Et donc ce qui m'aide à vivre, parce que c'est ça la question, je vais vers ce qui m'aide à vivre, c'est tout. Et je pense que ça c'est un choix. Qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce qui me tient vivant?
Au fond, permettez-moi, mais c'est une grande question pour ceux et celles qui suivent cette série des clés pour vivre de la semaine.
Ah oui.
Qu'est-ce que je dessine? Qu'est-ce que je veux pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je veux entendre? Quels seront mes choix aussi de lecture?
Tout à fait. Et cela, vous voyez, ça se traduit très concrètement. Il y a un curseur pour moi très
quel
net.
Quel est-il?
C'est que, par exemple, je suis enseignant, mais quand je n'ai plus aucune énergie, si je devais me trouver devant une classe plein de préoccupations, plein de pessimisme, plein de tristesse, qu'est-ce que je vais donner à ceux que je rencontre? tandis que j'ai remarqué que fréquenter de telles œuvres m'ouvrait à la complexité de l'existence, ne me rendait pas du tout absent au malheur du monde, mais présent autrement. Et donc, si je n'arrive pas avec cette qualité d'énergie qui me donne le désir d'entrer en relation avec l'autre, de chercher ensemble quelque chose qui puisse nous donner des raisons de vivre, de construire, d'espérer, d'aller de l'avant, si je n'ai pas cette énergie, je la sens en moi, eh bien, je n'arriverai pas.
Donc au fond, vous interrogez, nous sommes tous individuellement responsables de la bonne énergie ou de la mauvaise énergie que nous voulons transmettre.
Je crois...
C'est une question individuelle.
Mais je crois en effet que c'est une question...
Et une responsabilité très grande.
C'est une responsabilité. C'est-à-dire, d'accord, on a reçu une certaine quantité peut-être d'énergie, et Edith Chan parle d'énergie vitale, sensible, bon, mais il faut savoir la renouveler et il faut savoir qu'est-ce qui la renouvelle pour chacun. Et donc là, il y a quand même un choix à faire. Si je passe mon temps dans la dispersion, dans le bavardage, sur des terrasses de café, à faire les boutiques, enfin à courir partout, je vais m'épuiser, je vais me dévitaliser. Donc j'ai besoin, je vous avoue, mais ça fait partie du jeu, de l'aventure. Si je veux offrir quelque chose qui est porteur de vie, qui soit plus intéressant que moi et mes petites histoires, mais qui puisse nourrir l'autre et l'aider dans sa propre vie, eh bien il y a des choses auxquelles je vais renoncer pour accorder de l'espace et du temps à d'autres choses. Par exemple, avant un cours, eh bien, c'est vrai que parfois, écouter une suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Je pense à la première suite pour violoncelle, le troisième mouvement. Il y a une telle énergie de vie. Pour moi, ça doit être quelque chose comme le jaillissement dans la vie trinitaire. Il y a une telle force de vie. Et quand j'accueille cette force de vie, eh bien, elle se dépose en moi et elle m'habite et je peux m'appuyer sur cette énergie-là pour communiquer quelque chose qui tient en éveil aussi ceux à qui je parle. Et donc là, j'en suis responsable, oui. Je ne peux pas écouter n'importe quoi, je n'ai pas de temps pour tout.
Permettez-moi, au fond, individuellement, chacun peut être responsable.
Oui, mais ça, c'est une question d'écologie intérieure. Encore faut-il ne pas avoir perdu, ne pas être coupé de soi-même. Parce qu'aujourd'hui, on peut être tellement coupé de soi-même qu'on ne sait même plus discerner. Alors, on dira on est constamment fatigué, découragé, sans énergie, mais on ne sait même plus pourquoi. C'est devenu un état de fait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reprendre conscience que... on n'est pas au contact des choses sans conséquence, que tout a une influence sur nous, ce que l'on regarde, ce que l'on entend, ce que l'on lit. Et donc, on doit, c'est une obligation, s'interroger sur ce à quoi on veut accorder une attention dans le sens d'un service, parce que l'idée, c'est quand même de donner après aux autres. On est avec d'autres
Alors,
sur cette terre.
Pour donner aux autres, apprendre aussi à se découvrir et mieux se connaître, pour ensuite pouvoir répondre à un appel, quel qu'il soit, ou un appel missionnaire.
Ça, c'est la condition.
Donc,
depuis...
cette connaissance de soi
ah,
est
depuis
vitale.
L'Antiquité,
oui, oui.
C'est la
et
condition.
Et demande également un déplacement, mais parfois une remise à niveau et conversion.
Je le crois parce que souvent, quand on dit... qu'on se connaît, ce n'est pas soi-même que l'on se connaît, c'est le moi tel qu'il nous a été imposé du dehors, tel que les courants idéologiques vous présentent ce qu'il faut être, et donc on s'impose chacun une violence incroyable pour correspondre à des clichés, et finalement personne n'est vraiment lui-même, ou très peu de personnes sont vraiment elles-mêmes. Pour moi, l'un des signes, c'est que quand on arrive à trouver un peu ce qu'Edith Chan appelait sa note pure, sa note propre, quand on la capte intérieurement, quand on essaie de tenir cette note, eh bien, on ne cherche plus à convaincre qui que ce soit ni à se justifier. On n'est plus contre les choses, on va vers autre chose. Moi, j'essaie d'aller vers la vie. J'essaie d'être dans le grand courant de vie. Je n'ai plus le temps ni l'énergie aujourd'hui d'aller contre ceci ou contre cela, mais vers la vie. Et je crois en la splendeur de la vie. Je crois que nous venons de la vie. La vie est l'alpha et l'oméga. C'est le principe et la fin, donc c'est la vie qui aura le dernier mot. Même si aujourd'hui, hélas, on est aussi en présence d'entreprises de démolition, d'affaissement, mais ça aura un temps et je travaille pour l'après, je travaille pour la victoire de la vie parce que c'est cette promesse de vie qui est mon espérance. Et cette espérance, je dois la cultiver, je dois la nourrir pour avancer, pour offrir le meilleur dans un temps limité de mon existence.
Et ça demande des choix
Ah mais oui, bien sûr, ça demande de la vigueur, ça demande de la force d'âme, ça demande une certaine virilité dans les choix.
Et au fond, une grande liberté intérieure, hein, parce que mais dans ces choix, il y a aussi des refus.
Ah oui, mais
et vous
ça
multipliez
vous
parfois, hors antenne, on préparait un peu ces séries d'entretiens, vous vous accordez aussi cette liberté, cette autorité de refuser certaines invitations aujourd'hui.
Oui, et pas seulement des invitations, mais parfois des propositions qui pourraient être alléchantes ou intéressantes en termes de, voilà, de professionnel ou autre. Mais il y a des combats qui ne m'intéressent pas et je sais que si c'est au prix, parce que la question que je me pose, elle est très pragmatique, je ne suis pas planant du tout, ma question c'est au prix de quoi, parce que tout a un prix, ça ne l'oublions pas, tout a un prix. Et donc je suis très pragmatique et je me dis mais ceci m'est proposé, mais ça va être au prix de quoi, qu'est-ce que je vais devoir laisser, si je dois laisser cet espace intérieur, si je dois laisser cette capacité d'écoute, donc le temps dont j'ai besoin aussi, eh bien je préfère renoncer à certaines charges. Je préfère, pour moi, je ne juge pas ce qui serait appelé à autre chose, mais il vaut mieux pour moi que j'y renonce pour un meilleur service.
À réfléchir, hein, et oui. Je dirais, je renvoie chacun et chacune à cette réflexion. Est-ce qu'on ne s'agite pas trop aussi en multipliant parfois les fonctions, les missions, et même au cœur de l'Église? Donc apprenons peut-être à entrer dans ce déplacement intérieur qui demande l'écoute.
Qui demande l'écoute.
Le silence en vue du discernement.
Oui, en vue du discernement, et pour reprendre l'image que vous preniez de multiplication des tâches, une danseuse avec qui j'avais travaillé me disait, on confond le mouvement et la gesticulation ou l'agitation. Le mouvement n'est pas de l'agitation. Il y a un mouvement juste, un mouvement fluide, un mouvement qui a une force de vie, et il n'est pas chaotique, il n'est pas incohérent, ce n'est pas la gesticulation. Aujourd'hui, il y a assez peu de mouvement, on a besoin de retrouver la grâce aussi, la grâce dans les paroles, dans les gestes, dans les attitudes, et pas l'affaissement et pas le chaos, la grâce. C'est quand même ça qui m'intéresse.
Alors, je vous propose de vous retrouver dès demain pour un quatrième numéro. À demain.
Merci.
Et merci.
À demain.